La bibliothèque de Babel.
Bonsoir, Jacques Baudouin micro. Eh bien, avant toute chose, je voudrais vous présenter à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour l'année 1980. Eh bien, pour ce soir, qu'avons-nous au sommaire ? Une interview de Bernard Gordon. Bernard Gordon anime à Bruxelles une revue qui s'appelle Id et autres, une revue qui vient de publier un numéro spécial consacré à une anthologie de la littérature fantastique latino-américaine, un aspect encore mal connu de cette littérature. C'est une revue qui paraît à Bruxelles et qui publie des textes souvent remarquables, en particulier dans ce numéro, et puis aussi dans ce numéro, Bernard Gordon fait preuve d'une remarquable érudition sur le sujet. Il dévoile pas mal de pans de la littérature latino-américaine qui nous sont encore inconnus. Il nous les donne aussi à lire, ce qui est particulièrement important. La revue Id et autres, qui est publiée à Bruxelles, vient de sortir un numéro qui est consacré à une anthologie de la littérature fantastique latino-américaine. Je vous l'ai déjà dit en présentant cette émission, c'est un aspect de la littérature latino-américaine qui est largement méconnu. Et ce numéro de la revue Id et autres nous permet de lire pas mal de textes d'écrivains, bien sûr parfois très connus, comme par exemple Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares ou encore Silvana Ocampo, mais qui sont alors présentés sous un aspect qu'on connaît généralement moins bien de leur œuvre, ou encore la revue nous présente des textes alors d'auteurs qu'on n'a jamais eu l'occasion de lire en français. Et cela grâce au travail de Bernard Gordon, qui a traduit tous ces textes et que j'ai rencontré à l'occasion de la publication de cette revue. C'est une revue que, si vous ne trouvez pas facilement en librairie, vous pouvez toujours éventuellement vous adresser à son éditeur. Ce sont les éditions Recto Verso, qui sont situées 18 rue des Éperonniers, à 1000 Bruxelles. Il y a même un numéro de téléphone, c'est bien sûr le 02, suivi du 512 83 00, si vous voulez avoir des renseignements sur cette revue. J'ai d'abord demandé à Bernard Gordon d'expliquer le titre qu'il a donné à l'introduction qu'il a écrite au numéro de la revue. Le texte de sa présentation porte comme titre « La conspiration du silence fantastique » et je lui ai demandé d'abord de s'expliquer là-dessus.
Disons que c'est le problème commercial dans l'édition française. On publie toujours des auteurs qui sont connus et c'est finalement la boule de neige, le cercle vicieux. On a fait connaître Borges à l'époque de Queloy. Roger Queloy, qui avait animé les collections françaises, La Croix du Sud, qui a lancé finalement la collection du monde entier chez Gallimard, etc. Et lui, il se fait qu'il connaissait personnellement Borges. Étant traducteur, bon, il avait intérêt à pousser les auteurs qu'il connaissait. Il a poussé Bioy Casares, Silvina Ocampo. Cortázar, ultérieurement, est apparu également. Ce sont des auteurs qui, indubitablement, présentent une grande qualité littéraire dans leur style, dans leur fond, etc. Mais ils ne sont pas les seuls. Et notamment Borges, finalement, est l'aboutissement de tout un courant dont Queloy a purement et simplement fait fi. Borges a été précédé de toute une école fantastique argentine qui a commencé vers la fin du 19e siècle et qui a finalement engendré des dizaines d'auteurs pendant près d'un demi-siècle, dont le public francophone n'a absolument aucune idée. Et c'est pour ça que je parle plus ou moins d'une conspiration du silence, parce qu'on les a passés sous silence, alors qu'ils méritaient tout aussi bien que Borges, si pas plus, d'être révélés au public en langue française.
Comment est née cette littérature fantastique latino-américaine, et où ?
Bon, en gros, on peut dire indubitablement qu'elle a subi une influence de la part des écrivains romantiques allemands, mais également d'auteurs comme Edgar Poe. Elle est née dans le pays qui, économiquement, à l'époque, était le mieux développé et qui était le plus proche de la culture européenne, c'est-à-dire l'Argentine en gros. Elle est née, évidemment, parmi une classe d'intellectuels. C'est, à l'origine, disons, un pastiche d'un certain fantastique anglo-saxon ou européen, mais finalement, des auteurs comme Holmberg, par exemple, à la fin du 19e siècle en Argentine, ont commencé à mélanger le terroir, les légendes locales, tout le passé précolombien à ces éléments européens. Et ça a commencé à créer une littérature proprement originale, locale et très intéressante à plus d'un égard, dans la mesure où elle est enrichie par les apports de différents horizons. Et je dois dire que, pour moi, je l'ai dit assez souvent, c'est probablement la littérature fantastique la mieux ébauchée, dans la mesure justement où elle est la synthèse de toute une série d'influences.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité de l'école argentine, de l'école fantastique argentine par rapport, par exemple, aux littératures nationales fantastiques européennes? Est-ce qu'il y a une différence?
Oui, je crois qu'il y a une différence essentielle, c'est que, bon, comme c'est un pays finalement qui est assez neuf, et malheureusement qui n'était pas finalement fort habité avant l'arrivée des Espagnols, ce pays n'a pas de mythologie. Et il y a eu finalement l'apport de Borges en ce sens, évidemment il est important, qui a consisté à créer, en opérant un amalgame des mythologies tant scandinaves que asiatiques, plus les quelques éléments locaux de civilisation précolombienne, il est parvenu à créer une mythologie et même à créer une sorte de fantastique métaphysique locale. En cela, c'est assez différent des mythologies, enfin des fantastiques plutôt européens.
À côté de l'école argentine, trouve-t-on d'autres écoles nationales en Amérique latine?
Disons, il y a vraiment l'école argentine, on peut parler d'une école commençant à peu près vers 1870 jusqu'à nos jours, avec des centaines d'auteurs. À côté de cela, nous trouvons effectivement une école au Pérou, école qui a débuté à peu près à l'époque de César Baliero, qui avait été un poète assez connu, et qui a écrit des contes fantastiques. Alors il y a eu l'écrivain Ventura Garcia Calderón, qui était assez bien connu par le public français, dans la mesure où on a publié pas mal de ses œuvres en français. Et alors, il y a toute une lignée actuellement d'auteurs péruviens, Belévan surtout, qui était en Belgique dernièrement. Enfin, il a été premier secrétaire à l'ambassade du Pérou ici à Bruxelles pendant 2-3 années. Et il a d'ailleurs écrit dernièrement un roman fantastique péruvien absolument superbe, qui se base entre autres sur le fameux vol des juges des frères Vanegg à Saint-Bavon. Et il a échafaudé toute une hypothèse assez curieuse. Alors là, évidemment, c'est un écrivain qui subit une forte influence européenne, mais qui finalement amalgame de nouveau, aux racines du passé de son pays, des éléments étrangers, et c'est assez curieux comme démarche. Assez intéressant aussi. Disons qu'au Pérou, il y a une école, mais moins importante qu'en Argentine. Disons, elle pourrait être comparée peut-être en importance à l'école belge, par exemple, qui est tout de même pas négligeable. Alors nous avons une génération au Mexique. Là, vous avez des auteurs qui sont peut-être davantage connus du grand public, comme Juan Rulfo, qui avait fait le fameux Pedro Páramo, ou La plaine en flamme. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a traduit en français. Et là, évidemment, c'est de nouveau un thème classique de la littérature fantastique latino-américaine, la mort, qui intervient, il y a des morts qui sont mêlés aux vivants, etc. Mais c'est très beau, c'est vraiment, il y a une poésie là-dedans. Alors, à part ces trois écoles, enfin, les deux dernières, je les mettrai entre guillemets, il y a, disons, une certaine lignée. Il y a des cas isolés. Il y a évidemment le Colombien Garcia Marquez, qui est probablement un des auteurs qui restera dans l'avenir. Je dois dire que je me demande dans quelle mesure Borges restera effectivement d'ici un siècle. On verra ça avec la décantation. Pas que je sois hostile, j'ai des contacts avec Borges, des contacts personnels, mais tout de même, quand on voit par exemple, j'ai repris, c'est assez significatif dans l'anthologie, la postface de Lem. Lem fait une étude sur Borges. Borges, finalement, emploie toujours le même mécanisme, etc. Il a trouvé un petit truc, et c'est comme certains groupes de la musique pop actuelle, ils réutilisent toujours la même chose.
Qu'est-ce qu'on trouve dans l'anthologie?
Dans l'anthologie, on trouve un échantillonnage très large. Il y a une bonne vingtaine d'auteurs d'une dizaine de pays. Et tant les auteurs que le grand public connaît, Borges, Bio Casares, Cortázar, Garcia Marquez, avec des textes inédits en langue française. Et alors des auteurs qui ont fait des textes absolument superbes, qui n'avaient jamais été traduits en français, et des auteurs qui sont peut-être connus d'un public, disons, d'hispanophiles, mais pour d'autres aspects de leur œuvre. Je pense par exemple à Rubén Darío, qui est le père du modernisme, à César Baliero, déjà cité, qui est un grand poète péruvien, et alors une série d'autres auteurs qui sont absolument pas connus ici, mais qui sont en général connus, par exemple, aux États-Unis, évidemment très connus en Amérique latine. Et c'est une optique très nettement anticommerciale que j'ai prise. Dans le temps, j'avais compilé l'anthologie Amérique latine fantastique pour Marabout. Marabout a connu des difficultés assez grave, malheureusement. Ça n'a pas pu voir le jour et j'ai préféré, au lieu de laisser ces auteurs méconnus encore pendant quelques années, sortir ça à un tirage limité, afin qu'un certain public puisse, disons, s'initier ou voir ce qui existe. Il y a d'ailleurs une bibliographie qui leur permet d'effectuer des recherches plus lointaines. Et nous avons un programme qui sera basé essentiellement sur la découverte, la divulgation de ces œuvres méconnues et qui mériterait de l'être davantage.
Comment fonctionne la revue?
Bon, la revue, au départ, était centrée sur ce qu'on appelle en Belgique un centre d'expression de créativité. C'est l'expression consacrée par le ministère de la Culture. Nous avions une équipe assez large. C'était le hobby, la création d'un groupe de jeunes. Avec le temps, pas mal de jeunes sont partis vers différents horizons. Et maintenant, l'équipe est réduite à sa plus simple expression, en l'occurrence moi-même, traducteur littéraire, et ma fiancée, qui revoit les textes, qui m'aide pas mal dans mon travail. On travaille à deux, finalement. Et alors, nous avons des contacts avec les auteurs, nous avons des correspondants en Amérique latine. Nous opérons un choix très sévère des textes. Bon, vous avez 26 textes dans ce numéro, je pense. Ça doit être le résultat de la décantation de facilement 500 nouvelles. Et une fois que nous avons opéré notre sélection, nous traduisons les textes, nous les tapons à la machine, nous publions, nous tirons ça nous-mêmes, enfin, tout est fait. C'est de l'artisanat pur. Hein. On n'a jamais dépassé 1000 exemplaires avec les numéros, celui-ci en fait 500. Davantage, nous ne pouvons pas risquer et nous ne le voulons pas. Notre optique n'est pas commerciale parce que à partir du moment où on en arrive à la phase, disons, de la forme du numéro, reliure, etc., ça prend un temps fou. Et je ne veux pas que ça soit au détriment, disons, des numéros à venir parce que, bon, mon temps, je ne fais pas ça en professionnel. Hein. Je fais ça pour mon plaisir et pour le plaisir d'un public de lecteurs pas très grand.
Oui, la revue a publié aussi beaucoup de textes de science-fiction. Est-ce que le public de la science-fiction mord aux textes fantastiques que vous publiez?
Oui, apparemment, oui. Disons que mon but en général, c'est de publier ce que les autres ne publient pas. En cela, on est marginal parmi les marginaux. Parce qu'actuellement, la science-fiction en général, par exemple, est déjà prisée par un public toujours plus large, mais tout de même par une minorité de lecteurs. Il y a à peu près 40 000 lecteurs dans la francophonie qui s'intéressent à la science-fiction, enfin avec des pointes de 40 000, disons. Et nous publions finalement la science-fiction que les autres ne publient pas. Alors c'est la même optique que nous avons eue avec le fantastique. Et le public qui s'intéresse à ce que nous faisions dans la science-fiction nous suit dans le fantastique, parce qu'en fait c'est un public en général assez intellectuel, des étudiants, des professeurs d'université, des bibliothèques, des universités, etc. Et ce qui les intéresse, c'est de découvrir des nouveaux horizons des paralittératures.
Bernard Gordon parlait du dernier numéro de la revue Id et autres, un numéro consacré à une anthologie de la littérature fantastique latino-américaine, une entreprise qui comble les silences de l'édition traditionnelle. Et je vous rappelle les coordonnées de cette revue, s'il ne vous est pas facile de la trouver. Vous pouvez vous adresser aux éditions Recto Verso, 18 rue des Éperonniers à 1000 Bruxelles, numéro de téléphone à Bruxelles, donc le 02 512 83 00.